Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien un moine bouddhiste, traducteur, photographe, puisqu'on parle de photographie. Le titre de ce livre, Un voyage immobile, l'Himalaya vu d'un ermitage, aux éditions de La Martinière. Il publie également ses mémoires, Carnet d'un moine errant, chez Alary Édition. Et vous allez pouvoir dialoguer avec lui, évidemment, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Mathieu Ricard, bonjour.
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 Et merci d'être à notre micro. Les Français vous connaissent bien depuis de longues années maintenant, avec votre tenue de moine bouddhiste que vous portez aujourd'hui dans ce studio. Ils connaissent aussi vos nombreux livres, Le Bonheur sur le Bonheur, L'Altruisme, Les Animaux, sur la spiritualité. Vous venez donc ce matin nous parler de vos mémoires. Ces carnets d'un moine errant, 850 pages d'une vie singulière, méditative. Vous retracez à la fois l'étrangeté et la grande cohérence de votre propre vie. Vous commencez par cette phrase. Je suis né le 12 juin 1967 à l'âge de 21 ans. Ce jour-là, j'ai rencontré, j'espère bien le prononcer, Kanju Rinpoche.
Rinpoche.
Mon premier maître spirituel. Que s'est-il passé ce 12 juin-là? Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous compris ce jour-là?
Voilà. Alors, si vous voulez, j'ai compris ce qui me manquait, en fait, dans l'existence. J'ai été très privilégié dans ma jeunesse. J'ai été entouré de grands philosophes, mon père et tous ses amis, ma mère Yann Le Toumelin, peintre, dont Pierre Soulages, Georges Mathieu, Zhao Wuqi, mon oncle Jacques-Yves Le Toumelin, fait un tour du monde en solo, un bateau à voile sans moteur, de tous les explorateurs, je les connaissais.
Je m'intéressais à Althusser, vous avez...
Voilà, Althusser, vous voyez, donc c'était pas un modèle de vie forcément.
Oui.
Donc toutes ces personnes-là, si vous preniez 100 philosophes et 100 jardiniers, vous aviez la même distribution de personnes formidables, de gens exécrables, heureux, malheureux, égoïstes, altruistes. Donc c'était très déconcertant pour un jeune qui cherche une inspiration, un modèle de vie. Donc j'aurais bien voulu jouer aux échecs comme Bobby Fischer, mais pas être Bobby Fischer. Donc là, c'est quelque chose qui me j'étais pas satisfait. Donc quand j'ai vu des documentaires faits par Arnaud Desjardins pour la télévision française sur tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise vers l'Inde, j'ai vu ça, je me suis dit, il y a 20 Socrates, 20 Saint-François d'Assise, j'y vais. J'avais 6 mois de vacances avant d'entrer à l'Institut Pasteur. Et là, brusquement, j'ai vu des personnes, moi je connaissais rien au bouddhisme, mais la qualité des êtres humains, la cohérence, la bienveillance, la résilience, toutes ces qualités humaines me disaient, voilà, si je pouvais devenir 1/100 de ces qualités humaines, là, je serais bon. Donc, ça m'a inspiré au fil des années.
Alors, mais le fait est que quand vous avez 21 ans et que vous débarquez là-bas, donc après avoir vu ce documentaire par un couple d'amis à vos parents, vous vous dites, il faut que j'aille les voir, en tout cas, ces ermites. Votre maître, votre premier maître à qui vous rendez hommage dans ce livre, vous dit, vous lui dites, je veux tout lâcher et venir. Et il vous dit non, non. C'est trop tôt, il n'est pas souhaitable d'interrompre une tâche sur le point d'être achevée, cette tâche c'est votre thèse, ne décide rien jusqu'à 30 ans et les choses deviendront claires. Vous l'écoutez, vous rentrez à Paris, vous allez passer quelques années à Paris, vous allez finir votre thèse, sauf que vous n'attendrez pas 30 ans puisque vous y retournez vers 26 ans, c'est ça?
Oui, 27 ans, on va dire 26 ans, 27 ans. Oui, c'est d'ailleurs, ça montre bien que c'est un vrai sage, et, vous voyez, il n'a rien à gagner, il n'attend rien de vous, et il a tout à partager et à donner, mais c'est pas comme des gens qui essaient de vous attirer, de vous retenir, de vous influencer. C'est quand quelqu'un est mu uniquement par la bienveillance, qu'il essaie de guider les gens pour s'extirper un peu des causes de la souffrance, il pense au mieux. Et c'est vrai que autant ça aurait été très prématuré à 21 ans de tout lâcher. D'abord, voilà, mes parents auraient été terriblement déçus, j'aurais un peu cassé quelque chose. À l'Institut Pasteur, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai publié les travaux de ma thèse, tout le monde était content, j'allais partir en post-doc aux États-Unis, et j'ai pris la poudre d'escampette, j'ai fait mon post-doc dans l'Himalaya, et tout le monde était content, et c'est très bien. Et j'étais mûr pour faire cette décision.
Vous étiez mûr à ce moment-là.
Et vous n'avez jamais douté en 50 ans, notamment les premières années à Darjeeling, en Inde, quand vous vivez dans une petite boîte de 3 mètres sur 3, sans eau, sans électricité, sans chauffage, à aucun moment vous vous dites...
Alors quand vous dites une petite boîte, oui c'est vrai, c'est un petit ermitage en pin, mais devant l'Himalaya, en présence vous vivez en présence de Socrate.
C'est sûr qu'il y a de la perspective, oui.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je me félicitais, mais tous les jours, d'avoir pris au bon moment la bonne décision. Si vous voulez, quand les choses sont mûres, vous voyez, vous passez un col, vous quittez une vallée, et vous voyez une vallée extraordinaire avec des vergers, des rivières. C'est pas que vous rejetez ce que vous avez quitté, vous claquez pas d'une porte, un nouveau chapitre dans votre vie. Je me suis félicité, je m'en félicite encore tous les jours, que ça soit venu au bon moment, quand c'était mûr, comme un fruit qui est mûr, il tombe dans la main au lieu de tirer pour casser la branche. Et quand les choses sont mûres, ça serait d'avoir été obligé de rester qui m'aurait coûté beaucoup.
Mais donc pas de doute. Mais quand vous prononcez vos vœux monastiques en 1979, vous vous engagez à respecter les quatre règles importantes que sont ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir sur son chemin intérieur et ne pas avoir de relations sexuelles. Ce dernier vœu-là, il n'a pas été trop difficile à respecter. La chasteté, oui, le célibat, alors, ça ne va pas de soi quand même. Surtout quand vous aviez l'idée de fonder une famille en fait.
Oui. Alors, c'est toujours pareil. Vu de l'extérieur, tout ça peut paraître un grand pas si on n'est pas prêt. Mais encore une fois, le fruit mûr. Donc pour moi, à l'époque, les deux allaient bien. Moi, j'avais une vie plus ou moins, disons, célibataire depuis quelques années. Et puis je me suis dit une chose. Si je veux vraiment mener à fond cette existence, partir dans des ermitages dans la montagne, vous imaginez, moi je sens le sens des responsabilités. Vous avez une famille, deux enfants, on dit, bon bah écoutez, hein, mes chéris, je reviens dans 3 ans, je vais faire une retraite. C'est pas possible. Donc j'aurais jamais mené cette vie, 50 ans dans l'Himalaya, au Bhoutan, 20 fois au Tibet, si j'avais eu une famille à charge. Alors, j'ai pas eu d'enfants, certes, mais j'en ai 30 000 maintenant dans les écoles qu'on a fondées avec Karuna Sechen. Je les ai pas enfantés, mais je les aime beaucoup. Je suis très proche des enfants. La moitié de l'humanité, ce sont des femmes. J'ai des amis très chers parmi les femmes. C'est pas une question de prendre ses distances, etc. Dans le bouddhisme, la femme est éminemment respectée. On dit même qu'un moine doit se prosterner intérieurement devant une femme parce qu'elle symbolise la sagesse. Donc voilà.
C'est bien ça pour Nicolas.
Je me prosterne tous les jours, Léa.
On va établir la règle à France Inter.
Oui. Parlons philosophie. La question traverse votre livre, évidemment, mais la philosophie aussi. Qu'est-ce qu'un être humain foncièrement bon? Est-ce que ça existe vraiment, d'ailleurs? Diriez-vous, Mathieu Ricard, que vos maîtres en bouddhisme étaient forcément et foncièrement bons?
Alors forcément, c'est pas forcé, c'est l'aboutissement d'un chemin. Mais quand toute votre vie, le principal objectif que vous êtes fixé est d'éliminer ce qu'on peut appeler des toxines mentales, la haine, l'obsession, l'arrogance, la jalousie, le manque de discernement, et que la compassion, l'altruisme, c'est un idéal de chaque instant, toute votre vie, ça finit par faire ses marques. J'entendais une logie d'un homme d'affaires français qui vient de décéder, et à un moment donné, il disait « Je veux être riche, très riche, très riche, le plus riche possible !» Bon, si on se fixe ça comme but, on va peut-être le devenir. Si vraiment, sincèrement, jour après jour, année après année, votre but est de devenir un meilleur être humain, un jour, on a demandé au Dalai Lama « Comment se fait-il que vous soyez si populaire que 30 000 personnes viennent vous voir au Chili ?» Il dit « Je ne sais pas. Et peut-être que c'est parce que je pratique 4 heures par jour tous les matins sur la compassion depuis 60 ans. » Ça porte ses fruits.
Et vous y êtes parvenu, vous êtes parvenu à accéder à ce que les bouddhistes appellent l'éveil, c'est-à-dire le stade ultime de votre chemin. Est-ce que vous l'avez approché au moins?
J'en suis très loin, mais attention, quand on a le sentiment profond d'être sur le bon chemin, quelqu'un qui part à pied faire le tour du monde, bon, c'est long, mais chaque pas est une joie en forme d'effort, le rapproche de son but a du sens. C'est quand vous êtes égaré dans la montagne, vous ne savez pas où aller, donc pourquoi marcher? Je ne sais pas si ça vous éloigne du but, ça vous rapproche du but. Donc j'ai le sentiment, avec une immense joie, que je vais sur ce bon chemin. Je vois des changements se faire en 50 ans, bien sûr.
Vous trébuchez parfois dans ce chemin?
Trébuchez,
ben,
il y a des obstacles en tout
Est-ce
genre, la paresse notamment.
La paresse?
La paresse, on pourrait toujours en faire plus. Déjà, moi, je suis assez industrieux, mais on peut toujours se dire, j'aurais pu méditer davantage. Au lieu de faire le clown depuis 20 ans, écrire des livres, j'aurais pu être dans une grotte, à essayer d'atteindre à l'éveil. Bon, tout ça, c'est pour ça aussi que les conseils d'un homme ou d'une femme de sagesse qui vous dit, bon, attention, voilà la meilleure voie à suivre, c'est ça que je te conseille, il ne vous force pas, il vous montre le chemin comme quelqu'un qui vous donne une carte. Personne n'a jamais obligé personne, on ne m'a jamais obligé à faire quoi que ce soit, mais des indications utiles, comme un vieux marin qui vous donne une carte marine pour faire le tour du monde.
Mais les sentiments d'arrogance, d'égoïsme, de haine, ils vous traversent parfois?
Alors la haine, franchement pas. Je crois que je me suis pas mis en colère beaucoup depuis 20 ans. Mais il y en a d'autres. Mais en même temps, c'est toute la science de l'esprit du bouddhisme vise à les reconnaître, à connaître l'étincelle au moment où elle surgit. Et une étincelle, si elle tombe pas sur un monceau d'herbe sèche, ne va pas mettre le feu à la forêt. Si elle se dissipe dans le ciel, donc c'est reconnaître l'étincelle, la laisser se dissiper, Elle passe comme un oiseau qui traverse le ciel sans laisser de traces. C'est tout le cœur de la pratique, de la façon de gérer les émotions destructrices.
Mais une vie sans colère, sans passion, triste, éventuellement sans petitesse ni laideur, n'est-elle pas une vie terriblement C-H-I-A-N-T-E,
c'est ce que disait Goethe. Trois jours de bonheur ininterrompu sur un supportable, c'est toute la même, toujours la même chose. La souffrance, ça change tout le temps, c'est dramatique, c'est formidable.
Pas à souffrir, mais
pas seulement la passion.
Écoutez,
ça
fait partie de la
je vais
vie
vous
aussi.
Dire, si on faisait un séminaire en disant en 24 heures, on vous rend 100% plus jaloux, je sais pas s'il y aurait beaucoup d'amateurs.
Non, mais
si on vous dit, on va vous rendre plus bienveillant.
Ça peut nous traverser, on ne demande pas à être écrasé par la jalousie.
De toute façon, ça arrive, mais être le jouet, l'esclave de la jalousie ou de la haine, c'est bon pour personne.
Mais enfin quand même, vous avez été interrogé récemment dans La Vie sur la responsabilité des bouddhistes, puisque vous dites ça, c'est le but des bouddhistes, c'est d'arriver à ces sentiments-là. La responsabilité des bouddhistes dans les persécutions de la minorité musulmane, des Rohingyas en Birmanie, et vous avez répondu, oui, il y a des pervers, voire des psychopathes dans toute population humaine, et ils finissent toujours par passer à l'acte. Ces fruits pourris ne doivent pas cacher des beaux vergers. N'est-ce pas une manière n'est-ce pas un peu court pour quand même parler de ce que les bouddhistes ont fait dans ces massacres, ces déplacements de population de Rohingya?
Oui, je mettais les choses au clair. J'ai écrit un article dans le Figaro à ce moment-là en disant que c'était, il y avait absolument inexcusable. Vous trouverez pas une phrase dans le bouddhisme qui incite à la violence. Le Dalai Lama, à l'époque, l'a dit, si le Bouddha était là, il viendrait au secours de ces pauvres Rohingyas. C'est sans appel. Il n'y a aucune justification. On a même parlé de moine tueur. L'idée de commettre un meurtre, vous perdez instantanément votre ordination. Donc ça n'a pas de sens. C'est totalement à l'encontre du bouddhisme. Et au moins, c'est clair dans le bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme, on ne dit pas tu ne tueras point. C'est dans le meurtre, dans la société civile, mais c'est OK à la guerre. Le bouddhisme est par définition un objecteur de conscience. Le meurtre est le même à la guerre ou dans la paix. Donc, je veux dire, pour ça, ils sont même assez extrêmes. Alors, il y a eu des déviances. Il y a eu les kamikazes zen. Le clergé bouddhiste à Sri Lanka a soutenu la répression des Tamils. Il y a bien sûr les moines qui ont soutenu l'État en Birmanie. Il y a eu des choses. Mais malgré tout, c'est quand même une exception. Et c'est pour ça qu'on est souvent attiré par ces mauvaises nouvelles. Et c'est vrai, dans toutes les communautés humaines, que ce soit le sport, l'éducation, la famille, il y a des excès, mais c'est comme si on faisait une enquête, tous les vergers sont pourris parce qu'il y a 100 fruits pourris dans chaque verger. Il faut aussi voir que pendant des millénaires, c'est une civilisation qui a contribué à l'humanité et qu'il y a aussi des bonnes choses, forcément.
On va passer au standard. Beaucoup de questions sur le thème que veut développer Elisabeth. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur Demorand.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Ricard. En fait, je me permets de vous poser une question en lien avec l'actualité. S'agissant des scandales de pédophilie qui secouent l'Église française, se pose la question de la remise en cause du statut du célibat pour les prêtres. Or, vous, monsieur Ricard, vous êtes un moine tibétain qui avait fait vœu de chasteté, comme l'exige la tradition tibétaine. J'aimerais connaître votre point de vue éclairé sur le sujet.
Alors tout d'abord, pour moi...
Merci beaucoup Elisabeth. Mathieu Ricard vous répond.
Pour moi, les vœux monastiques, c'était un choix de vie parce que ça permettait de vivre comme je souhaitais le faire sans avoir sentir une responsabilité d'être fixé pour une famille. Je pense effectivement que ça doit être un choix extrêmement naturel. Si c'est une contrainte, ça peut pas marcher. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de moines dans le Tibet qui renoncent à leur état monastique. De plus, l'état monastique n'est absolument pas indispensable à parcourir le chemin de l'éveil. Mes deux principaux maîtres étaient en fait ils étaient mariés. C'était qu'on appelle des yogis, c'est-à-dire qu'ils avaient une famille, des enfants. Effectivement, donc le célibat imposé trop jeune, peut-être sans que ça soit l'aboutissement d'une démarche, de simplement une liberté de vie, et en plus être exposé à beaucoup de personnes quand on a une paroisse, etc., ça me paraît, c'est sans doute une des causes de ces drames, c'est sûr.
Le rapport Sauvé remis hier casse l'idée des fruits pourris et des déviants en montrant qu'il y a une dimension systémique au sein de l'Église qui a permis à des pédocriminels de sévir en toute impunité. Comment avez-vous reçu ce rapport et est-ce que vous pourriez appliquer votre théorie des fruits pourris à l'Église catholique ou ça n'est pas suffisant?
Ce qui n'est pas suffisant, c'est d'avoir attendu trop longtemps, que les victimes aient eu qui a toujours laissé pour compte et eu à attendre tellement longtemps pour avoir justice et des réparations et des reconnaissances. Et souvent, c'est très difficile pour des jeunes de s'exprimer. Donc, il faut créer des structures. Et au sein du bouddhisme, j'ai des amis à créer une fondation qui s'appelle Pure Light, parce qu'il y a, contre toutes les religions, il y a aussi des déviations et des prédateurs pour les accueillir suffisamment tôt pour qu'elles puissent s'exprimer, etc. Donc, il faut vraiment faire tout ce qu'il faut. Et il y a plus, dans d'autres domaines, il y a des structures similaires dans le sport, dans l'éducation, dans les familles. Les centres d'accueil. Donc, c'est inadmissible. C'est certainement un échec de la part des autorités de ne pas avoir fait ce qu'il fallait plus tôt. Dans le bouddhisme, ça existe également. Il y a des personnes qui ont été condamnées, qui sont en prison. Donc, voilà, il faut faire tout ce qu'il faut. C'est choquant. Parce que, si vous voulez, dans le sport ou dans le monde du spectacle, à Hollywood, on s'attend un peu plus que ça arrive. Mais dans des religions qui sont censées d'avoir pour seul but le bien des personnes, c'est d'autant plus choquant et inadmissible.
Il y a beaucoup de choses dans votre livre. 850 pages, il y a beaucoup de choses sur vous et il y a beaucoup de choses sur le monde. Vous parlez du monde actuel, vous parlez de l'époque. Vous écrivez que l'épidémie du narcissisme gagne du terrain, tout comme la démagogie, le populisme et l'exacerbation des divisions. Les fake news gagnent en ampleur et en force. Vous pointez la volatilité des réseaux sociaux, l'absence d'esprit critique et de rigueur, l'asservissement à un imaginaire malsain qui engendre un tsunami de confusion.
C'est pas mal dit, ça. Vous êtes... Oui, en fait, on est dans le règne de l'inconnaissance. C'est-à-dire, on a l'impression que, avec 3 clics sur Internet, on va remplacer 10 ans, 20 ans de formation, de recherche, et qu'on est aussi compétent que quelqu'un qui a consacré sa vie à un sujet de recherche particulier. Alors, c'est...
Elle vous désespère, l'époque?
Ben, c'est vrai que c'est très nouveau ce phénomène. Hein. Mon éditeur publie justement un livre sur le complotisme, comment entrer dans l'esprit des complotistes. C'est mon père, il dit, appellerait ça le règne de l'inconnaissance, j'imagine, parce que cette illusion du savoir, et on sait que les gens qui, si vous voulez, le monde est plein d'incertitudes, notamment la recherche scientifique change parce qu'on doit s'adapter à ce qu'on découvre. Les gens ont besoin de certitudes dans ces moments difficiles. Donc quand quelqu'un vous arrive avec un dogme qui est béton, parce que ça change pas de toute façon, que ça repose pas sur les faits, que ça peut pas être c'est un côté rassurant pour les gens qui savent pas trop, qui sont pas forcément éduqués dans ce domaine. Donc c'est un phénomène très troublant.
Question de Thérèse sur l'application de France Inter. Quelle est la position de Mathieu Ricard sur la vaccination contre le Covid?
Alors moi, à 75 ans, le lendemain, j'étais vacciné parce que je pense, personnellement, d'abord, je m'en remets au consensus des personnes les plus compétentes. Ça me semble la manière la plus sage de procéder. C'est quand pour le réchauffement global, vous avez 999% des scientifiques qui disent c'est de cause humaine. Il y en a toujours 1 pour 1000 qui dit le contraire. Et on met ça un peu, il faut avoir un point de vue alternatif. Or, ça n'a aucune valeur. Donc moi, je suis convaincu de tout le consensus. Disons, je l'ai fait. Je pense que pour moi, c'est à la fois pour se protéger soi-même et pour protéger les autres. Ça me paraît une évidence.
Comment on convainc des anti-vax?
Alors le problème, c'est que justement, quand tous ces mouvements-là, on sait, ça a été étudié, les dissonances cognitives et les biais cognitifs, que le plus finalement on insiste avec des faits, le plus ça renforce la croyance de la personne qu'en fait on manigance ça, qu'il y a des forces occultes derrière, etc. etc. C'est très difficile.
C'est très difficile, ouais. C'est ce que vous dites.
Ouais. Jean-Pierre, sur l'application France Inter...
Dire juste une chose quand même, quand on leur dit 98% des gens qui sont en service de réanimation sont non vaccinés, et moi la réponse me dit « Ah oui, mais c'est tout des mensonges, le gouvernement ment. » Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez dire?
Jean-Pierre, donc, sur l'application, écrit la chose suivante, c'est Mathieu Ricard qui devrait se présenter à la présidentielle. Ça vous fait rire, on a besoin de cette intelligence et de cette sagesse. Êtes-vous candidat, vous aussi?
Attendez, vous allez voir au dernier moment, là, je vais sortir avec ma robe monastique, ça va faire un plouf.
Ça va faire du buzz, comme on dit.
Coluche s'est bien présenté, pourquoi pas. Vous aurez un clown bouddhiste, le dernier.
Quel regard vous portez sur la France? Vous y habitez là depuis quelques mois parce que vous voulez être près de votre mère en Dordogne. La campagne présidentielle, vous la regardez? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Ça vous inquiète? Ça vous interpelle? Quel regard vous avez?
Oui, c'est un peu un spectacle. C'est-à-dire que moi, je suis très... Quand je dis que je suis un citoyen du monde, ça fait un peu pédant. Mais c'est vrai que moi, j'écoute les nouvelles sur la BBC World Service, vous m'excuserez.
Ah oui.
Parce que moi, j'aime bien voir les grands problèmes du monde. Et souvent, que ça soit d'ailleurs dans tous les pays, c'est beaucoup les nouvelles locales qui font l'actualité. Bon, là, par la force des choses, comme celui-là, moi, on n'a pas la télévision, mais j'écoute la radio. Alors, par curiosité, j'ai écouté certains débats. C'est vrai que c'est... Vous savez, dans le bouddhisme, on s'entraîne beaucoup au débat philosophique, donc on a un peu l'habitude de ces débats. C'est amusant à voir. Alors, bon, c'est vrai que c'est des moments troublés, Mais il y a des programmes. Moi, le grand défi aujourd'hui, c'est celui de l'environnement, parce que on se plaint des migrants, etc. Mais Nicolas Stern, le grand économiste, a évalué à 250 millions le nombre de migrants qui pourraient arriver d'ici 2050 à cause du réchauffement. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Des souffrances énormes. Si la population passe à 2 milliards au lieu de 8, si la température monte au-dessus de 3 degrés, vous vous rendez compte des souffrances que ça va créer. Mmh. Et donc, c'est vrai que, comme dit Greta Thunberg, pour l'instant, c'est du blablabla. Et il faut vraiment prendre en considération les générations à venir. C'est notre grand défi.
Vous votez encore, Mathieu Ricard ?
Alors, vous savez, j'étais souvent très loin des bureaux de vote dans les ermitages. Mais j'ai voté finalement pour la première fois par proxy à Katmandou, la dernière élection présidentielle.
Après ce livre-là, après ces mémoires de 850 pages, vous allez faire quoi, Mathieu Ricard ? Est-ce que c'est votre dernier livre ?
Un gros livre, ben c'est pas un livre de recherche comme le livre sur l'altruisme où j'ai passé 5 ans de travail acharné. Mais bon, là, si vous voulez, moi, je produis pas des livres comme on produit des salades. C'est des choses qui me tiennent à cœur. Et je voulais, avant que mon cerveau dégénère complètement, et ça a déjà commencé, témoigner des choses extraordinaires que j'ai vues, que j'ai vécues, des personnes que j'ai rencontrées, qui ont inspiré ma vie, qui m'ont donné un sens. Et je trouvais que c'était dommage que tout ce que j'ai vécu ne soit pas témoigné. Donc, je n'ai pas de projet de faire de grands ouvrages. Par contre, j'ai repris ma passion première, qui est celle de traduire des textes. En fait, j'ai traduit une dizaine de volumes de textes du tibétain. C'est pas des choses qui sont grand public, disons, mais qui m'a toujours tenu à cœur. Et là, j'ai entrepris la traduction d'un texte de 700 pages. Je suis aussi la préservation de l'héritage culturel. J'ai réimprimé 400 volumes de textes. J'ai travaillé des années à Delhi, dans des vieilles imprimeries, à réimprimer des textes. J'ai photographié 40 000 documents sur l'art himalayen qui sont disponibles dans le monde entier. Tout un travail d'archiviste, si vous voulez, qui est aussi ma vocation.
Que vous allez poursuivre.
Et qui n'est pas visible quand ils viennent au Népal.
Et vous allez retourner au Népal ? Vous allez retourner ?
J'attends l'occasion. C'est un peu ma mère qui me retient ici. Mais voilà, si je lui survis, ben oui, je vivrai sans doute au Népal et je poursuivrai ce travail de traducteur. Et puis aussi vivre dans mon ermitage, parce que c'est bien pour ça que je suis parti il y a 50 ans. C'est pas pour mourir dans un aéroport.
Il vous manque votre ermitage ?
Il me manque. On est bien dans la forêt, je suis avec beaucoup d'amis chers. Mais néanmoins, tant qu'à choisir, j'aime bien être devant cet ermitage.
Un voyage immobile, l'Himalaya vu d'un ermitage aux éditions La Martinière. Ça, c'est le Mathieu Ricard, photographe. Et vos mémoires, carnet d'un moine errant, Mathieu Ricard, publié chez Alary Éditions en librairie aujourd'hui.
Et vous vouliez parler de votre sœur.
Le livre de ma sœur, c'est une femme merveilleuse qui depuis 43 ans à la Parkinson, qui est un modèle de vie pour moi et qui vient de publier un magnifique recueil de poèmes, Éclat de vie, aux éditions Jouvence, préfacé par Christian Bobin.
Merci beaucoup d'avoir été.
C'est quoi le prénom de votre sœur ? C'est quoi le prénom de votre sœur ? Vous avez pas
Ève Ricard.
Ève Ricard.
Merci d'avoir été à notre micro. Il est 8h46.